Il était au match numéro 1 hier. Il a vu cette victoire entre les Bruins de Boston et les Blues de Saint-Louis. Victoire de 4-2, d'ailleurs. Du Journal de Montréal, Jean-François Chaumont est avec nous. Salut, M. Chaumont.
Salut, M. Rainville.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, très bien. Toujours agréable de couvrir une finale de la Coupe Stanley.
Avez-vous...
Il y avait de l'ambiance. Hein?
Oui,
il y avait
la... oui, est-ce que vous avez vu les rats de Luc Gélina aujourd'hui? Est-ce que vous les avez vus hier?
Ben, moi, ça m'était arrivé en finale de 2013. Tranquille, en train d'écrire dans la salle de presse. C'est un beau gros rat qui passe entre les jambes. Quand t'as déjà l'heure de tomber qui te stresse, t'as une bébite qui passe entre tes pattes, tu peux être nerveux. Mais je salue le calme de Luc Gélina qui n'a pas dit de gros mots non plus en ondes.
Oui, oui.
Un pro, ce Luc, avec une belle bébite qui lui passe entre les jambes. Mais hier, j'ai fait une petite course dans Boston, puis à mon retour, je passais devant le Teddy Garden et j'ai aussi croisé un rat. Donc, je crois qu'il y en a plusieurs dans les environs.
Oui, et les langues fourchues diront, il y en a un également sur la patinoire, mais ça, c'est complètement autre chose.
En disant ça, je pensais à mon père qui, lui, doit penser au numéro 63 des Bruins.
Exactement. Et peut-être juste pour situer les gens, là, si vous n'avez pas vu, c'est que Luc Gélina, aujourd'hui, est en reportage dans le TD Garden et il y a vraiment un rat qui est passé à côté de lui, Durant, qui fait un live. Mais là, il fait le saut, il a peur, puis là, il dit, écoute, c'est le troisième rat que je veux passer en 5 minutes. Alors, c'est l'histoire du rat avec le TD Garden. Mais à part de ça, hier, beaucoup d'ambiance. Un match peut-être avec un lent départ pour les Bruins de Boston, mais par la suite, on a vu l'équipe qui revenait un peu à ses vieilles amours, c'est-à-dire être un club dominant, et c'est ce qu'on a vu dans ce match-là face aux Blues de Saint-Louis.
Probablement un match en deux temps. Hier, je parlais avec Patrice Bergeron après le match. Lui, il n'était pas content du début de l'équipe. Les Blues menaient 2-0 au début de la deuxième période. On peut aussi comprendre du côté des Bruins, on revenait d'une longue pause de 10 jours. Du côté des Blues, je crois que c'était 5 jours d'affilée sans match. Donc, c'est deux équipes qui pouvaient être rouillées en début de rencontre. Les Bruins ne jouaient pas du mauvais hockey, mais un revirement de David Pastrnak qui mène au deuxième but de Vladimir Tarasenko. Mais après ça, du côté des Bruins, disons qu'on a ouvert la machine et pas à peu près. Pendant plus de 12 minutes, les Blues ont décoché aucun tir au but. On a vu les Bruins prendre leur air d'aller. Quand Connor Clifton a marqué un premier but, ça a redonné confiance. Et ensuite, ça a été un rouleau compresseur. Jusqu'à la fin du match, les Bruins ont complètement buté le jeu. 38-20 les tirs, mais surtout les Blues de Saint-Louis ont commis la gaffe d'y aller trop de punitions. Mm-hmm. 4 punitions d'affilée. Jamais une bonne recette contre les Bruins qui ont un taux de succès en avantage numérique supérieur à 30%, 32,7 depuis le début des séries. Ils ont fini par marquer un but en avantage numérique à égalité 2-2. On se doutait que c'était pour tourner du côté de Boston.
Jean-François, tantôt, en introduction, je parlais de l'avantage numérique des Bruins de Boston et je parlais de la qualité de Torrey Krug. Ce gars-là est assez incroyable, comment il contrôle la rondelle, il est calme, il est patient, mais c'est la pierre angulaire de cet avantage numérique.
Oui, c'est un petit joueur, un petit défenseur, jamais repêché. C'est quand même hallucinant quand tu regardes son parcours, qu'aucune équipe ait osé lui donner une chance à l'époque. Seulement 5 pieds 9 pouces, peut-être les défenseurs qu'on voit un petit peu plus depuis 5-6 ans. Cette saison, 53 points en 64 matchs. S'il avait pu jouer près de 80 matchs, on aurait parlé d'une saison de 65 points. C'est un défenseur qui est très intelligent, peut relier la rondelle rapidement. David Pastrnak a tout un tir sur réception, toujours à surveiller. Quand tu ajoutes Patrice Bergeron, un Brad Marchand, et on utilise souvent Jake DeBrus, en supériorité numérique. Et donc, ça roule rapidement, la rondelle circule. Les Bruins, c'est une belle machine de hockey. Hier, ils en ont marqué un seul en avantage numérique, mais c'était le but d'importance, celui qui faisait 2-2.
Dis-moi, du côté des Blues de Saint-Louis, comment tu vois cette équipe-là? Est-ce que tu sens que cette équipe-là pourrait s'essouffler face aux Bruins de Boston ou tu sens qu'il y aura un momentum à gagner au courant de cette série finale?
Ben, c'est une bonne question. Je crois pas non plus qu'on doit tomber dans le panneau et dire « OK, les Bruins vont manger les Blues » parce qu'hier, ils ont dominé le premier match. Faut aussi avoir une bonne mémoire. Les Blues avaient perdu la première rencontre à San Jose, 6-3 contre les Sharks. Ils ont réussi à rebondir. Ils perdaient 2-1 dans cette série aussi contre les Sharks. Quand on parle du caractère d'une équipe, là, on se souvient du but qui est le fameux but avec la passe avec la main de Timo Meier qui a mené au... C'est le type de jeu là, qui aurait pu miner la confiance d'une formation. Mais non, Craig Berube, après le match, avait fait un discours à ses joueurs en disant « Écoutez, ce match-là, on l'a perdu en temps réglementaire. On n'aurait jamais dû échapper une avance d'un but en fin de troisième période. La faute revient à notre équipe. » Après ça, comment les Blues ont répondu? Ils ont gagné 3 matchs d'affilée pour éliminer les Sharks. Donc, il faut faire attention. Moi, au début de la série, je donnais un avantage aux Bruins pour la simple et bonne raison qu'ils ont l'expérience. J'ai la difficulté à parier contre Patrice Bergeron. J'ai la difficulté à parier contre Brad Marchand. Même si on peut le détester à Montréal, c'est un très, très bon joueur de hockey qui a eu 100 points cette saison. Tout comme Rask aussi connaît des séries phénoménales. Et Rask a joué une finale en 2013. Jordan Binnington, c'est la belle histoire. C'est le conte de fées. C'est l'histoire Cendrillon. Il n'a pas été mauvais au premier match, mais il n'a pas été sensationnel. C'est un autre niveau aussi, la finale de la Coupe Stanley. C'est un petit peu plus de stress. Depuis le début, c'est l'homme de glace. Puis même, pour te dire, Jérémy, là, pour un journaliste en entrevue, sans être méchant, Binnington, il est plat. Il donne rien de bon. Il donne rien de bon. Il est gentil. Il va coopérer, mais il est vraiment cliché. Tu sens qu'il veut pas sortir de sa petite bulle. C'est le gardien qui est concentré, sérieux, sérieux, sérieux. C'est correct. Ça marche depuis le début. Toukoras, lui, c'est tout le temps sourire. Il est calme, lui aussi. J'aime la confrontation entre les deux, mais j'ai pas le choix de me ranger du côté de Rask, donner un petit avantage aux Finlandais.
Dis-moi donc, Binnington, pendant le match, je suis convaincu que tu as pris quelques instants pour le regarder, lui, particulièrement. Ouais. Comment il est alentour de son filet? Comment t'évalues son travail? Parce qu'on le sait, il est arrivé au mois de janvier, là, ça a complètement tourné cette histoire avec les Blues de Saint-Louis. Tu le sens-tu en pleine confiance alentour de son filet? Comment tu as vu ça?
Ben hier, bon, disons que les Blues ont essayé de jouer dans sa tête. C'était à prédire. Il y a Brad Marchand qui l'a frappé après un sifflet. Il y a Terry Krug qui a été lui parler. Il a mal paru. Il a peut-être été faible sur le but égalisateur, celui de Charlie McAvoy. Mais quand on voit à reprise la rondelle dévie sur le bâton aussi d'Alex Pietrangelo, moi, je le trouve quand même calme. C'est un gardien. Je l'ai vu jouer contre les Sharks. J'ai eu la chance de couvrir des matchs entre les Blues et les Sharks. Pas le plus spectaculaire, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus gros, mais ce qu'on va toujours entendre de lui, c'est que c'est un combatif. Puis David Perron me disait qu'à son rappel cette saison, quand il a été rappelé de la Ligue américaine, premier entraînement contre Jordan Binnington, il était incapable de marquer. Puis il se souvenait d'avoir parlé à l'entraîneur des gardiens pour dire il est bon, lui. Il m'a fâché tout l'entraînement, j'étais pas capable de le battre. Puis l'entraîneur des gardiens dit bah, t'arrives, c'est peut-être juste une mauvaise journée. T'avais pas le compas dans l'œil. Puis Perron disait, de journée en journée en journée, il prouvait à tout le monde qu'il pouvait être le numéro un. Il a quand même 25 ans, puis c'est un gardien qui avait un parcours intéressant. Il a joué au championnat du monde junior pour l'équipe Canada. Quand tu fais partie des deux meilleurs gardiens au Canada pour les moins de 20 ans, t'as un talent. Il partageait le filet avec Malcolm Subban. Aujourd'hui, c'est peut-être Binnington qui va avoir une plus belle carrière comparativement à Subban. C'est un joueur qui était coincé du côté de Saint-Louis. Il avait pas sa chance. Jake Allen était le numéro un. L'an dernier, Doug Armstrong l'a compté souvent. Il n'y avait même pas de place pour lui dans la Ligue américaine parce que les Blues partageaient l'équipe école avec l'Avalanche du Colorado. On avait préféré Ville Husseau comme gardien du côté des Blues. L'Avalanche a envoyé un autre gardien. On l'a prêté aux Bruins de Providence. Connu une bonne saison. Il a eu sa chance cette saison à Saint-Louis. Honnêtement, moi, c'est un premier match à la finale de la Coupe Stanley. Il l'a perdu 4-2. Il a un but dans un filet désert. Il n'y a rien de catastrophique. Il a reçu 38 tirs hier. J'ai confiance que cette équipe-là peut rebondir. Puis Binnington, cette année, chaque fois qu'il perd, il revient encore plus fort au match suivant.
Oui, il devra bien performer dans le prochain match parce que je regardais la brigade défensive. Là, t'as Edmondson qui est là, t'as Pietrangelo, Boumeister, Parayko. Ce sont de gros défenseurs gigantesques, ouais. Mais McAvoy a traversé ça un moment donné comme si de rien n'était. Ouais. Tu sais, quand tu rentres dans le centre de la patinoire, ça peut être compliqué pour les gros défenseurs des Blues, là.
Puis hier, c'était particulièrement compliqué pour Joel Edmondson puis Carl Gunnarsson. Soyez pas surpris si Vince Dunn fait son retour pour le deuxième match. Dunn avait reçu une rondelle en plein visage au troisième match contre les Sharks. Il n'a pas joué depuis. Il s'est entraîné encore aujourd'hui. Il s'est entraîné hier matin. Hier, Craig Berube nous disait qu'il était proche. Aujourd'hui, il a dit que c'était possible. Je crois sincèrement qu'on va bouger. On risque de changer Carl Gunnarsson pour Vince Dunn pour amener plus de rapidité. Plus de mobilité à la ligne bleue. C'est beau, les gros, grands défenseurs, mais les Bruins sont rapides. Si tu as regardé le match, je suis convaincu que tu as regardé, Jérémy, là, moi, j'ai adoré Bruce Cassidy. Premièrement, c'est un entraîneur qui n'a pas peur de dévoiler sa stratégie aux journalistes. Chose assez rare. Le matin du match, il disait « Je ne vous montrerai pas de cachette. Mon plan, c'est Patrice Bergeron contre le trio de Braden Shen, Jaden Schwartz et Vladimir Tarasenko. Je veux y aller avec mon meilleur centre défensif contre la grosse unité des Blues. Mais si ça ne fonctionne pas, je vais rester calme. Puis je peux utiliser Sean Corrady, mon quatrième trio. Ce quatrième trio est assez bon pour jouer contre le meilleur trio des Blues. Je n'aurais pas peur de le faire. Puis qu'est-ce que Cassidy a fait? À 2-0 pour les Blues, il a décidé de sortir le trio de Bergeron. Deux fois, le trio de Bergeron se retrouvait sur la glace quand les Blues ont marqué. C'était pas de la faute à Bergeron. C'était pas de la faute à Marchand. Une erreur de Pasternak, par contre. Il a décidé de miser sur son quatrième trio. Quatrième trio le fait passer pour un génie. C'est Corrali qui fait la passe sur le premier but de Connor Clifton. C'est Sean Corrali qui marque le but gagnant après un très beau jeu de Noël à Cherry. Les Bruins ont de la profondeur. C'est une belle équipe de hockey. Du premier au quatrième trio.
Exactement. Beaucoup de profondeur du côté des Bruins de Boston. Écoute, Jean-François Chaumont, du Journal de Montréal, ça m'amène à te poser la question qu'on posera aux gens ce soir. En fait, je me suis dit, il faut à un moment donné prendre le temps et évaluer comme il faut les choses. Et je me suis dit, est-ce que le Canadien de Montréal, comparativement aux deux finalistes de la Coupe Stanley, sont prêts, loin ou à des années-lumière des deux finalistes, selon toi?
Pas des années-lumière. Je crois qu'ils ont des ingrédients. Il y a de bons morceaux. C'est tout le temps difficile. Là, on regarde les deux formations. On se dit que c'est des attaquants quand même assez gros, assez en puissance, qui sont capables de relier, d'allier l'agilité, la robustesse. Mais le Canadien a quand même de bons éléments. Shea Weber, Carey Price, Max Domi, Jesperi Kotkaniemi qui est un bon centre. Je crois que le Canadien doit absolument trouver un défenseur gaucher. Si Brett Kulak qui joue encore au sein d'un top 4 et Victor Mété est également dans le top 4, c'est deux défenseurs gauchers moyens pour un top 4. Le Canadien a des brèches à colmater, mais je crois pas qu'il se retrouve à des années-lumière. Pour une rare fois, il faut quand même tenir un discours réaliste. Pour une rare fois, il y a de bons espoirs à Montréal.
Non, clairement. Et je veux juste dire, et je ne compare pas le niveau de jeu, parce que là, clairement, le niveau de jeu que les gens ont vu du Canadien ou de la Ligue nationale en saison régulière et le niveau de jeu qu'on voit présentement en finale de la Coupe Stanley, là, c'est deux mondes complètement différents. C'est pas dans le niveau de jeu que dans la composition des formations. Moi, je vois qu'il y a une certaine similitude, et Mario Langlois en parlait un peu plus tôt aussi, certaines similitudes avec les Bruins de Boston sur la rapidité, peut-être pas la même profondeur, mais belle rapidité qui sert bien les Bruins contre les Blues de Saint-Louis présentement.
Tout à fait, mais les Bruins ont quand même un marqueur de 100 points en marchant. Si Bergeron avait joué une saison de 80 matchs, il aurait frôlé le 90 points cette année. Pasternak est un marqueur de 40 buts. Le Canadien a de bons éléments. Il en manque encore, mais c'est quand même une formation intéressante à mes yeux. Puis, sauf si tu regardes les petites différences aussi, le quatrième centre des Bruins, c'est Sean Corrali. Le quatrième centre des Blues, c'est Oscar Sundqvist. Quatrième centre du Canadien, c'est peut-être Nate Thompson l'an prochain. On lui a redonné un contrat. Ou sinon, c'est Ryan Poehling. J'aurais peut-être tendance à dire qu'avec Ryan Poehling, on pourrait avoir un beau quatrième centre, jeune, sans expérience, mais un bon patineur, joueur complet. C'est intriguant. Puis surtout cette année, là, qui aurait prédit que les Hurricanes de la Caroline aurait atteint la finale de l'Est?
Personne.
Il y a eu un paquet de surprises. Je crois que le Canadien peut se battre pour une participation en série l'an prochain. Mais c'est loin d'être dans la poche, là. Tu regardes les équipes dans l'Est et surtout dans la division du Canadien, les Bruins resteront une bonne équipe, les Maple Leafs resteront une bonne équipe. Le Lightning de Tampa Bay a connu toute une saison, même s'il a perdu au premier tour. Ensuite de ça, les Panthers de la Floride ont été chercher Joel Quenneville. On apporte une dose de crédibilité incroyable à cette équipe-là en partant. Les Sabres de Buffalo, Raph Kruger, nouvel entraîneur, Dalin comme jeune défenseur, Jack Eichel, un jour, ils vont finir par gagner un peu.
Un jour.
Non, mais c'est une vision qui va être très compétitive, Jérémy.
Ouais,
donc, le Canadien ne peut pas s'asseoir sur ses fesses, c'est-à-dire, ce sera facile, on va participer aux séries l'an prochain. Absolument pas, c'est un gros été pour Matt Bergevin.
OK, maintenant, une série 4-7 entre le Canadien de Montréal et les Blues de Saint-Louis. Qui gagne cette série-là, selon toi?
L'an prochain?
Moi,
là. Ou maintenant?
Maintenant.
Là? Les Blues.
Comment les
Blues? Les Blues. Mais écoute, si Carey Price joue sur la tête pendant 10 jours, 12 jours, c'est une bonne question. Mais j'ai tendance à dire les Blues.
Okay.
Colton Parayko, Alex Pietrangelo, c'est un beau top 2 comme défenseur. Ryan O'Reilly, c'est tout un joueur de centre aussi. Tarasenko, Schwartz, qui s'est réveillé en série. Mais écoute, tu y vas de bonne question ce soir, Jérémy. C'est pas facile.
Attends, j'ai pas fini. Attends, moi aussi, je favorise les Blues. Admettons, Canadien Blues.
Pour les Blues.
Je favorise les Blues juste à cause de l'aspect physique. Je pense que ça peut.
Ouais.
Tu sais, ils n'auront pas le même respect qu'ils ont face aux Bruins de Boston. Ils vont vraiment.
J'ai parlé du quatrième trio des Bruins, mais Sting, Barbachev et Sundqvist, ça frappe aussi puis ça patine.
Exactement. Bon, OK, donc, on donne l'avantage aux Blues de Saint-Louis.
Ouais.
Montréal-Boston, un 4-7, tu donnes qui comme gagnant?
Boston, mais Montréal joue toujours bien contre les Bruins, mais je dis Boston.
OK. Donc, ce qu'on comprend, c'est que avec des petits changements, c'est pas si loin. C'est pas ça, mais c'est pas encore ça, mais c'est pas si loin que ça, finalement.
Je pense pas qu'il y ait un marathon de distance, mais il y a quelques kilomètres.
Un 5 km, mettons, à la course?
Je n'ai couru un, je suis pas en forme, j'ai trouvé ça dur, 5 kilomètres. On va y aller pour 8-9, au moins.
OK. Jean-François Chaumont, toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est un plaisir, Rémi.
Merci.
Bye bye.
Jean-François Chaumont du Journal de Montréal, évidemment, qui sera là à la couverture du match 3. Ce sera du côté de Saint-Louis pour ce duel entre les Bruins de Boston et les Blues de Saint-Louis.